Entretien avec Agnès Ledigue. Paris, novembre 2018.
Bonjour Agnès Ledigue.
Bonjour.
On vous connaît maintenant depuis plusieurs années, notamment grâce à De tes nouvelles et On regrettera plus tard. Au printemps, vous avez publié Dans le murmure des feuilles qui dansent. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes venue à l'écriture ?
Alors, je suis venue à l'écriture en 2008. Après un événement tragique, j'ai perdu un enfant d'une leucémie et ça a été un temps de reconstruction en fait. J'avais des choses au fond de moi que j'avais besoin d'exprimer, besoin de sortir et c'est sur le papier que c'est sorti. Et ça m'a beaucoup aidée et je me suis rendu compte ensuite que ça aidait les lecteurs. Alors j'ai eu une chance incroyable parce que j'ai été éditée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, donc il y a cette chance-là. Mais ensuite, il y a eu cette espèce de conte de fées, de rencontre avec mon lectorat, qui m'a donné l'envie et la possibilité de poursuivre.
C'est effectivement une très belle histoire. Vos personnages dans votre dernier roman témoignent de beaucoup de bienveillance envers les autres, que ce soit Thomas, le menuisier, dont le petit frère est atteint de leucémie, ou Anaëlle, une jeune femme accidentée par la vie. Et pourtant, on sent qu'ils n'osent pas exprimer leur douleur face aux autres, ils sont assez pudiques, ils ont peur du regard de la société. Est-ce que vous avez voulu faire passer un message ?
Alors, c'est exactement ça. En fait, quand on vit un drame, on se retrouve face à des gens qui ne savent pas comment réagir. On peut pas leur jeter la pierre parce que c'est difficile, hein. C'est vraiment pas évident de savoir quels seront les mots justes pour aider ou pour accompagner la personne. Et moi, j'avais envie d'exprimer ça. J'avais envie de dire aux gens, mais j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'avoir des sourires en face de moi, j'ai besoin de retourner vers la vie. Et c'est ça que j'ai eu envie de transmettre. Et j'en suis très heureuse quand mes lecteurs et mes lectrices me renvoient ça en retour en disant « Vous nous avez apporté ça ». Parce que je me dis « C'est bon, la boucle est bouclée, j'ai réussi mon besoin de départ ».
Alors, selon vous, les livres soignent ?
Entre autres, alors ils ne font pas que soigner, heureusement, mais il y a forcément un côté un peu thérapeutique, mais comme dans tous les domaines artistiques. Je pense que aller au Louvre et s'imprégner de la beauté des œuvres soigne aussi le fond de soi et les failles qu'on peut avoir. Mais la lecture, l'écriture soigne, ça j'en suis certaine, mais la lecture, à mes yeux, soigne dans le sens où la personne qui lit s'identifie au personnage et se sent moins seule. Et quand on vit quelque chose de difficile, la première impression qu'on a, c'est de se dire « je suis seule à vivre ça » et c'est assez désespérant parce que la solitude ajoute à la peine autre. Et donc, se sentir moins seule en s'identifiant au personnage permet de se rassurer et d'être réconfortée.
D'ailleurs, une de vos personnages, Anaëlle, écrit justement pour sortir de son accident, de son histoire, et elle se documente à propos de la jurisprudence pour donner de la crédibilité à son texte. Vous-même, vous avez été sage-femme pendant de nombreuses années. Le milieu hospitalier est très présent dans vos ouvrages. Est-ce que c'est important pour vous de connaître un domaine pour écrire sur le sujet ?
Alors, c'est indispensable, d'abord parce que moi, en tant que lectrice, si je connais un sujet et que je lis un livre où les données ne sont pas crédibles, ça m'énerve un petit peu. Donc, j'essaye, moi, de faire des recherches pour être crédible dans ce que je dis. Donc effectivement, j'ai abordé des sujets que je connaissais, mais je me documente aussi quand je connais moins certains sujets, je me documente, donc je me renseigne auprès de personnes qui travaillent dans tel milieu, ou bien je lis des essais, je lis des livres, ou je vais sur place. Là, mon prochain roman va se passer en forêt à Brocéliande, je suis allée sur place deux fois. Ça me semble important parce que déjà, on s'imprègne de la chose, donc ça donne des idées aussi en termes d'inspiration. Et puis, cette crédibilité qui me semble le minimum de respect pour les lecteurs.
Vous m'avez ouvert une porte sur la forêt qui est également très présente dans le murmure des feuilles qui dansent et qui permet à Thomas de se ressourcer, qui vraiment lui apporte une forme de résilience. Il y a aussi toute cette osmose entre ce petit garçon fragilisé et la manière dont la nature peut être elle aussi fragile et revivre. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de votre rapport à la nature ? Est-ce que vous y emmenez vos enfants ? Est-ce que vos parents vous y emmenaient ?
Alors moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'est ma potion magique à moi, la forêt. Mes parents étaient instituteurs, mais ils faisaient du bois parce qu'on chauffait au bois. Et donc, on partait tous les week-ends, tous les samedis. Nous, on emmenait nos schtroumpfs et puis on allait jouer dans la forêt. Donc, j'ai grandi dedans et je pense que j'en ai été imprégné et ça m'a toujours suivi. Depuis quelques années, je m'y intéresse en termes plus techniques, c'est-à-dire je me renseigne. Comme je suis très curieuse de nature, je lis plein de choses sur le fonctionnement des arbres. Et puis forcément, il y a eu La vie secrète des arbres, des livres comme ça qui se sont ouverts au grand public. Et je trouve ça formidable parce que je pense qu'on a un vrai lien avec la nature qui a été oublié, qui est oublié, qui est en train de revenir. Donc c'est aussi ce que j'essaie de transmettre dans mes livres, ce côté, on a des choses, enfin la nature a des choses à nous apporter. Nous, on aurait des choses à lui apporter en termes de respect de cette nature, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui m'attriste beaucoup, mais la nature a beaucoup à nous apporter et on a beaucoup à écouter d'elle. Et en fait, dans ce livre-là, c'est la nature qui m'a donné l'angle, l'approche, parce que je voulais parler un jour de la leucémie et j'ai mis 6 romans à trouver comment le faire. Et c'est la nature qui m'a donné la réponse, parce que je me suis dit... je veux pas parler frontalement de la maladie, de l'hôpital, etc. Je veux y mettre de la poésie, je veux y mettre de la douceur, je veux y mettre de l'espoir, je veux y mettre de la vie. Et en fait, la nature, c'est ça, quoi. C'est l'espoir, c'est la vie, c'est le renouvellement. Et quand je donne juste un exemple sans spoiler le texte, mais quand le petit garçon commence à perdre ses cheveux à cause de la chimiothérapie, et ben son grand frère, il lui dit, mais tu sais, les arbres, ils perdent aussi leurs feuilles et puis ça repousse au printemps. Et donc, en fait, tout cet accompagnement de son petit frère repose sur le printemps, sur l'après, sur l'espoir, sur accroche-toi, ça revient, ça va revenir et tu vas t'en sortir. Et c'est la nature qui m'a permis, qui m'a donné sa poésie pour en faire quelque chose que j'espère quand même beau malgré la difficulté du sujet.
Oui, c'est vraiment superbe, notamment cette scène que vous racontez. Je voulais également vous demander un peu votre rapport au temps, parce que dans l'ouvrage, Annel, qui commence à entretenir une liaison épistolaire avec le procureur Hervé, veut garder un temps long, le temps des lettres envoyées par la poste. Elle rechigne à lui donner son adresse mail et elle finit même par lui donner son numéro de téléphone, mais seulement, comme elle dit, pour les cas extrêmes. Est-ce que vous trouvez que notre société va trop vite?
Oui. Moi, je suis un peu effrayée par l'emballement des choses, en fait. Et aujourd'hui, on est dans un fonctionnement où tout le monde doit être joignable partout, tout le temps, et répondre rapidement. Quand on vous envoie un message et que vous ne répondez pas dans l'heure, on s'inquiète. Et on n'a plus ces temps-là de déconnexion et de temps pour soi, et non plus d'attente. Et dans les lettres, dans les courriers papier par la poste, il y a ce temps incompressible du transport et de la distribution et ça laisse monter le désir. Et ça, on l'a beaucoup moins aujourd'hui. Et ce temps d'attente et de montée de désir joue dans la séduction, en fait. Et j'avais envie de développer ça et de montrer que ça peut encore exister et que ça a des vertus.
Et est-ce que vous recevez des lettres de vos lecteurs ?
Oui, alors je culpabilise beaucoup parce que je mets beaucoup de temps à répondre. Et parce que j'ai plein d'autres choses. Alors c'est vrai que là, pour le coup, l'instantanéité de la réponse par les réseaux sociaux ou quoi me permet de gagner du temps, parce que je n'en ai pas beaucoup. Mais j'essaye vraiment de prendre le temps, même si c'est juste un petit mot, mais de répondre par courrier. Parfois, c'est au bout d'un an et demi. J'ai eu une dame là récemment qui m'a dit, je vous ai écrit il y a un an et demi, vous m'avez répondu, mais waouh, c'était long.
Dans Le murmure des feuilles qui dansent, vous abordez assez précisément plusieurs thèmes autour de la santé. Est-ce qu'un de ces thèmes vous tenait davantage à cœur ?
Alors oui, évidemment, il y en a un en particulier qui est la greffe de moelle et le don du sang, parce que toute la phase d'hospitalisation de notre enfant, on a pris conscience d'un certain nombre de choses et de la nécessité du besoin en sang et en plaquettes. Et j'en ai fait un petit peu un cheval de bataille dans le sens où j'essaie de sensibiliser les gens autour de moi par rapport à ce thème, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne se rend pas compte que parfois des parents passent une journée entière en hôpital de jour à attendre une poche de plaquettes qui ne vient pas parce qu'elle vient de Marseille ou de Brest, parce qu'on n'en a pas assez en Alsace. Enfin voilà, il y a toute une organisation derrière qui dépend des donneurs. Et donc j'encourage vraiment les gens à réfléchir à ce don de soi qui ne... c'est pas de l'argent, on ne peut pas cliquer sur un lien pour donner 30, 50 euros pour une organisation. Là, on n'a pas besoin d'argent, on a besoin du temps des gens, un peu de leur sang et de leur plaquette, mais de temps pour le donner. Et c'est une autre démarche qui n'est pas évidente à faire, parce que on n'y pense pas, on se dit bon, il y en a d'autres qui le font, mais on a vraiment besoin de donneurs pour entretenir la machine qui peut sauver des vies. Et pareil pour la greffe de moelle, plus il y a de donneurs inscrits sur la liste de donneurs de moelle, plus on a des chances de trouver une compatibilité proche du besoin du receveur. Et ça, c'est quelque chose que j'aborde voilà, dans les pages à travers l'histoire. Mais j'aimerais tellement que les gens prennent un peu conscience de ça en se disant ben, moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais il y a d'autres gens qui le vivent et je peux peut-être les aider en donnant 2 heures de mon temps, une fois, 4 fois par an, ou bien donner mon plasma régulièrement en emmenant un livre ou bien en emmenant un livre audio dans le casque pendant qu'on donne ses plaquettes. Voilà, c'est quelque chose de finalement de facile à faire. Il faut juste faire la démarche.
Tous vos personnages sont assez charmants et dégagent beaucoup de douceur, à part un, Jocelyne, la greffière du procureur, qui paraît acariâtre, jalouse et difficile. Et on va découvrir au fur et à mesure qu'elle en fait, a subi des événements compliqués dans sa vie. Et donc, on a plus de mal à la juger. Comment avez-vous construit ce personnage ?
Alors en fait, elle ne paraît pas acariâtre, elle l'est. C'est-à-dire qu'elle est... C'est un personnage acerbe et qu'on a envie de détester au départ, mais j'avais envie de finalement la rendre attachante dans le sens qu'on ait de l'empathie pour elle et qu'on se dise, bah oui, si elle fonctionne comme ça, c'est qu'elle a vécu des choses très douloureuses et qu'elle s'est construite là-dessus et elle fait peut-être de son mieux. Et j'essaye de transmettre un petit message à travers ça qui est qu'on ignore totalement la vie des gens. On ne sait pas, quand on se parle, quand on parle avec quelqu'un, ce qu'il a vécu 3 jours avant, ce qu'il est peut-être en train de vivre et qui sommes-nous pour les juger. Donc, quand on est face à des gens qui ont des réactions comme ça, de jalousie, d'hyper-jalousie ou de méchanceté, bien sûr, il faut s'en protéger, parce qu'il faut quand même penser à soi et au respect de soi, mais toujours faire attention au côté jugement, jugement un peu fatal comme ça, il est méchant, voilà. Ben, peut-être qu'il a des raisons de l'être, même si tout ne s'excuse pas, mais on fait tous de notre mieux en fonction de là où on vient et de ce sur quoi on s'est construit. Donc pas de jugement, plus de l'empathie et je pense que le monde tournerait mieux.
Je crois que vous tenez également un blog. Est-ce que vous l'entretenez régulièrement ou vous passez plutôt plus de temps à écrire vos romans ? Enfin, comment vous gérez votre temps d'écriture ?
Alors, mon temps d'écriture, je le gère... c'est un peu compliqué parce que c'est un métier où on ne fait pas que écrire. Il y a aussi la phase où on parle du livre qui est sorti, où on va à la rencontre des lecteurs sur les salons. Et puis, j'ai une vie de famille aussi, à laquelle je tiens. Mais j'essaie d'avoir des phases. En fait, quand je suis en phase vraiment d'écriture, j'ai après la phase de mûrissement, de maturation de l'histoire dans ma tête, j'ai cette phase d'écriture où là, il me faut vraiment... plusieurs jours d'affilée avec des longues périodes d'écriture. Donc souvent, je m'isole une ou deux fois par an, une semaine, toute seule, quelque part, pour écrire. Mon mari est très compréhensif pour ça. Il sait que c'est nécessaire. Et là, j'avance vraiment bien. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est assez fragile, l'inspiration. Et quand on est pris dans le mouvement de la vie, se concentrer sur ça, ça n'est pas forcément évident, mais je m'accorde ce temps nécessaire. Après, j'ai aussi ce lien avec les lecteurs à travers les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Facebook, Instagram, avec parcimonie, pour ne pas me laisser envahir parce que ça prend du temps, mais garder quand même le lien qui me semble nécessaire et que j'aime beaucoup parce que en tant qu'auteur, on est seul derrière son écran et d'avoir le retour de ses lecteurs, c'est une richesse formidable.
Bien, merci Agnès pour cet entretien.
Merci à vous.